Histoire de patrimoine de nos communes.
Bonjour à tous. Deuxième épisode de notre émission Histoire 2 sur le patrimoine de notre belle vallée du Loir. Je suis aujourd'hui sur les hauts de Flers, entre Flers et Port-Gautier, dans un lieu emblématique de notre vallée qui est la chapelle Sainte-Cécile. Bien connue des amoureux du patrimoine, bien connue aussi des mélomanes, on en reparlera, puisqu'il y a régulièrement des événements culturels. Et aujourd'hui, je suis avec le maire de Flers, Monique Gautier. Je suis aussi avec Sylviane Montulé, qui est la présidente de l'association des Amis de Sainte-Cécile. Je suis aussi en présence de Léo Caniparis, qui est architecte des bâtiments de France et qui pilote en ce moment des gros travaux de restauration, de rénovation, sur lesquels on va revenir. Et je suis en présence aussi d'Angelo Strazzeri, avec l'accent, on va le dire comme ça, de la société Artema, qui est spécialiste de la conservation, de la rénovation des bâtiments historiques. Donc, je vais commencer par vous, Monique. C'est un lieu emblématique de Flers. Flers a beaucoup de patrimoine, des châteaux, etc. Mais cette chapelle Sainte-Cécile, c'est quand même un point d'orgue de la commune. C'est une fierté.
Oui, c'est une fierté. C'est un monument classé qui date de fin 12e, 15e siècle.
C'est propriété de la commune ou c'est propriété de l'État? C'est dans quelle situation patrimoniale?
C'est propriété de la commune, mais le diocèse en a aussi quand même une responsabilité.
Oui, puisque effectivement, la partie bâtimentaire, c'est la responsabilité de la commune, mais les usages et la préservation spirituelle, c'est la responsabilité du diocèse. J'imagine que pour une petite commune comme Flers, c'est une charge considérable de devoir maintenir, voire rénover. C'est pas possible sans l'aide de l'État, de la région.
Ah oui, c'est pas possible sans l'aide de la DRAC, de la région et du département. Aussi de l'association, bien sûr, Sainte-Cécile, les Amis de Sainte-Cécile, qui est représentée aujourd'hui par Sylviane Montulé. Et la Fondation du patrimoine aussi, je n'oublie pas.
Je vais y revenir, mais on va d'abord se concentrer sur l'origine, l'histoire de cette chapelle. Sylviane, est-ce que vous avez bien identifié toute l'histoire de cette chapelle? Elle date de quand?
Bien identifier, c'est difficile parce qu'on n'a pas d'archives écrites, on en a très peu. Mais elle date de la fin du XIe, début du XIIe siècle, donc période romane.
Et est-ce que vous avez quelques indications sur l'histoire au fil des siècles? Il y a eu un certain nombre de modifications. Vous avez des indications sur ce qui s'est passé au cours des siècles?
Oui, quand même, bien sûr. De toute façon, on en a, grâce à la lecture des pierres, lors des travaux menés par Angelo, on a vu qui était sous les badigeons blancs, l'ancienne porte des morts, par exemple, qui a été bouchée au XVe siècle quand le clocher a été installé. Et comme le clocher, évidemment, ne pouvait pas être supporté par la charpente de la nef, ils ont construit un tabouret de clocher à l'intérieur de la nef. Et ces tabourets, les pieds du tabouret passaient devant cette porte. Donc la porte a été déplacée. Elle a été déplacée deux fois, puisqu'il y a une partie à l'extérieur, on voit en roman, et puis une autre partie au-dessus du XVe.
Donc on voit qu'au fil des siècles, il y a eu des aménagements, des évolutions. On le disait tout à l'heure, un oculus qui est un petit peu décalé par rapport à la porte. Il y a eu plusieurs phases, probablement trois phases. Finalement, beaucoup, beaucoup d'évolutions. Alors j'ai une petite question. On est un peu isolé par rapport au village de Flers. On est sur les hauteurs, au-dessus de falaises. Il n'y a pas vraiment d'habitation autour. Il y a une bâtisse, peut-être une bâtisse seigneuriale, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que cette chapelle a été édifiée à cet endroit précis?
Elle était la chapelle du village de Sainte-Cécile, qui était à côté, puisque le pré qui nous sert de parking actuellement, juste à côté de la chapelle, s'appelle le champ de foire. Et là, les archéologues, lors de la restauration du bâtiment 2009-2010, ont retrouvé les traces du village, puisque nous avons la chance que cet endroit n'ait jamais été labouré depuis le Moyen-Âge, en fait.
Et du coup, c'est un village qui a disparu à quelle époque ?
Alors, c'est un village qui a été réuni avec le village de Flers ainsi que le village de Quincampoix. Ça a été réuni en 1807 pour faire plus qu'un village, puisque c'était difficile de conserver les lieux. D'autre part, ce village descendait aussi le long un peu du coteau, puisqu'il y a encore quelques maisons troglodytes et des restes de murs que l'on peut voir quand on descend par le GR qui passe au pied de la chapelle.
Je vais m'adresser maintenant à notre architecte des bâtiments de France, monsieur Cani-Paris. Qu'est-ce que vous pensez de cet édifice, vous qui êtes un habitué des restaurations du patrimoine? Quel est le caractère original? Comment approchez-vous cet édifice?
Alors, ce qui est assez étonnant avec cet édifice, cette chapelle, c'est que finalement, on parle d'une ancienne église paroissiale qui est classée au titre des monuments historiques en totalité et qui agglomère énormément d'éléments avec une très haute valeur patrimoniale. On parle aujourd'hui beaucoup des décors peints parce que c'est ceux qu'on restaure, mais on a aussi, par exemple, des magnifiques retables du XVIIIe siècle et plein d'autres éléments jusqu'à une époque aussi très, très récente puisqu'on a aussi un ensemble de verrières contemporaines qui viennent illuminer cet espace liturgique et événementiel et culturel. Ça en fait un édifice très très complet et comme vous l'avez dit dans un espace rural où on a très peu ce type d'édifice d'habitude.
Vous l'avez découvert quand? Il n'y a pas très très longtemps dans ces projets de restauration où vous connaissiez l'endroit?
Alors, pour être franc avec vous, on croise la chapelle Sainte-Cécile grâce notamment au syndicat mixte de la vallée du Loir qui couvre le territoire, la commune de Flers et ses environs et qui permet quand même un rayonnement assez important des monuments. C'est aussi un édifice qu'on peut croiser parfois au travers des archives, surtout parce qu'il a connu un dégagement des décors peints qui ont permis leur découverte et on est quand même sur un ensemble de décors peints qui est assez exceptionnel pour le département de la Sarthe. Donc voilà, c'est d'abord un édifice que je connaissais par les textes, par ses images et puis maintenant sur le terrain.
Et donc c'est classé monument historique depuis combien de temps, Sylviane, vous le savez?
La chapelle est classée depuis 1982. Les retables sont classés depuis 1989.
Et est-ce que, d'un point de vue architectural, cette chapelle a des spécificités qui, vous, en tant qu'architecte, vous intéressent particulièrement?
Alors, d'un point de vue architectural, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve un peu tous les éléments d'une église paroissiale du Maine et de la Touraine plus au sud, avec ce plan en croix latine, son chœur, son transept, sa nef, etc. Mais ici, dans des dimensions qui sont assez minimalistes, finalement, puisque justement, l'amalgame est fait entre l'église et la chapelle pour cet édifice. Et donc, c'est une forme de préciosité. C'est un édifice cultuel qui est pas très grand, mais qui a tout. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, je dois aussi saluer la campagne de restauration qui a été menée au préalable, liée au clos et couvert notamment, qui a permis vraiment une préservation de l'authenticité de ce lieu. Et cette authenticité-là, elle est assez rare. Et d'ailleurs, je crois pouvoir dire que c'est un édifice aussi qui est assez emblématique de notre département, avec une présence assez faible, finalement, du 19e siècle, une époque où, justement, on a souvent beaucoup transformé. Là, finalement, je disais que c'est un édifice qui est très complet, mais s'il y a peut-être une période qui est un peu moins présente, c'est celle du 19e siècle. Donc, une forme de pont entre l'époque pré-révolutionnaire et aujourd'hui.
C'est effectivement toujours l'enjeu des rénovations, des restaurations, de pas tout saccager. Alors peut-être que dans l'histoire, on était moins prévenant qu'on l'est aujourd'hui. C'est aussi votre travail, vous, d'architecte des bâtiments de France, d'assurer le respect de l'origine du bâtiment?
Alors en fait, dans mon travail d'architecte du patrimoine, dédié aux bâtiments de France et aux monuments historiques, on a parfois des choix à faire, alors qu'ils doivent d'abord être guidés par des raisons sanitaires. On est d'abord et avant tout là pour répondre aux pathologies et ensuite pour mettre en valeur. Sur le sujet des décors peints, par exemple, qui nous occupe aujourd'hui, on peut parfois être amené à faire des choix entre différentes périodes avec des décors peints qui sont plus ou moins intéressants, plus ou moins dégradés. Là, je dois dire qu'on a une chance parce que autant sur le plan des découvertes, l'étude diagnostique qui avait été menée au préalable était déjà assez évocatrice de ce qu'on allait trouver. On n'a pas fait des découvertes si étonnantes. Par contre, on n'a pas eu à choisir. Et vous voyez, on a une litre funéraire, par exemple, qui a été parfaitement bien réintégrée par l'entreprise Artema et qui ne vient pas se confronter avec les décors 15e, par exemple. Donc finalement, on a différentes époques qui se superposent sans trop se bousculer.
Mais du coup, je vais en profiter pour poser la question à Angelo, de manière à ce qu'il nous décrive son métier d'orfèvre, hein, quelque part. Comment restaurer tout ce qui est fresque, peinture? Ce chantier est particulier pour vous ou vous avez l'habitude, finalement?
C'est des cas qu'on trouve très régulièrement dans notre métier. Mais il faut savoir que très souvent, on est confronté à réaliser des dégagements. Ça veut dire à retirer des couches, très souvent des badigeons à la chaux, mais des fois même d'autres types de peintures qui recouvrent en effet les décors plus anciens. Parce que jusqu'au XVIIIe siècle, une fois que les décors sont devenus vieux ou démodés, ou peut-être trop abîmés, on recouvrait, ils n'avaient pas la même considération qu'on a aujourd'hui de ces peintures.
Et les badigeons ici étaient particulièrement compliqués à retirer, ou c'était maltraité, saccagé, ou vous avez réussi à récupérer le maximum possible des fresques antérieures?
Les badigeons, on pouvait les retirer assez facilement. On les a retirés mécaniquement avec des scalpels. Mais après, les peintures, souvent au-dessus, c'était un mauvais état. Et en effet, sur certaines zones de peinture, on a trouvé des abrasions et des incisions qui ont été faites de manière volontaire, probablement par des protestants qui ont vu cette pratique un peu iconoclaste.
Et donc il y a aussi toute notre histoire de notre pays qui se retrouve au travers des traces que vous avez retrouvées. C'est passionnant de retrouver toutes ces traces.
Oui, bien sûr, ça raconte un peu l'histoire de la région, l'histoire du bâtiment. Il y a plein d'histoires qui se creusent, qu'on peut découvrir à travers les peintures.
Ça veut dire que dans votre métier, au-delà de l'aspect, on va dire, artistique, artisanal, vous devez bien connaître l'histoire pour bien comprendre ce que vous découvrez?
Très souvent, quand les personnes me posent des questions par rapport à mon métier, la première chose qu'on parle, c'est un métier artistique. Mais en effet, moi, je ne pense pas que ce soit un métier artistique. En effet, c'est un métier où on doit connaître l'art, l'histoire de l'art. Mais après, on doit se confronter souvent avec d'autres personnes. Souvent, il y a des ingénieurs, des chimistes, parce qu'il faut faire très souvent des analyses chimiques pour connaître les pigments, les matériaux d'origine. Il y a aussi les historiens de l'art qui vont nous aider à dater les décors. Du coup, c'est toujours une approche multidisciplinaire.
Donc votre travail ici, c'est du scalpel, c'est retrouver des pigments pour bien retrouver les bons tons pour refaire des enduits, c'est le pinceau, c'est restaurer des peintures.
Bien, on a une gamme d'outils très, très variable. Là, en effet, on a fait un dégagement mécanique au scalpel, mais après, des fois, on peut utiliser aussi des solvants. Là, heureusement, on n'a pas dû employer des solvants que... On essaie de limiter l'utilisation des substances chimiques dans la limite du possible. Du coup, là, on n'a pas utilisé des produits chimiques et c'est un peu les valeurs de cette chantier qu'on a utilisé essentiellement que des produits naturels, aucun dérivé de la pétrochimie. Du coup, on est un peu en harmonie avec l'environnement de la chapelle.
Et avec les pratiques ancestrales de vos prédécesseurs qui ont fait ces fresques?
Bien sûr, on a utilisé à la fois des techniques anciennes, mais aussi des techniques modernes.
Quelle est la durée de ce chantier pour vous? C'est combien d'heures de travail? J'ai vu que vous étiez deux. Vous êtes deux régulièrement sur ce chantier ou plus nombreux?
La plupart du temps, on était deux. Après, des fois, on était intervenu aussi à quatre personnes. Du coup, on a commencé le chantier, si je ne me trompe pas, début octobre, fin septembre. Et du coup, là, on est en train de terminer la nef.
Et c'est une satisfaction pour vous, une fois que le travail est fini, vous avez l'impression de participer à l'histoire, à tous ceux qui ont élaboré cette chapelle au cours des siècles?
Oui, là, c'est un peu notre métier parce qu'on sillonne la France, on se déplace beaucoup. Du coup, chaque fois qu'on arrive dans un nouveau endroit, on s'approprie un peu de l'histoire des lieux, on fait des belles rencontres, on échange avec les gens du lieu. Du coup, pour nous, c'est sûrement un enrichissement personnel.
Vous avez un accent qui n'est pas tout à fait sartois. Ça veut dire que vous avez préféré travailler en France sur le patrimoine français. J'imagine qu'en Italie, il y a plein de demandes aussi pour ce type d'action.
Oui, après, c'est les circonstances de la vie. J'ai eu la chance de venir en France après mes études. Et après, je me suis tout de suite senti chez moi. Et du coup, j'ai choisi de rester ici.
J'imagine que vous ne connaissiez pas Flé.
Ah non, pas du tout.
Et concernant les fresques donc, qui sont restaurées par Angelo et son équipe, est-ce que vous avez découvert des choses particulières, inattendues, sur les fresques, sur ce qu'elles représentent, sur ce qu'elles peuvent signifier? Est-ce qu'on comprend tout de ce qu'elles peuvent signifier?
Je dois dire qu'en fait, au-delà des décors 15e qui sont figuratifs et dont on avait déjà partiellement connaissance, on a surtout une redécouverte des décors plus anciens, des décors romans à fausse coupe de pierre avec des teintes très vives. Les traces sont très ténues, mais elles sont assez évocatrices de ce qu'était la chapelle, en fait, même avant le 15e siècle, au début de l'époque médiévale. Et aussi, il y a une découverte, alors là, c'est peut-être même plus l'architecte qui parle, que je trouve très intéressante, c'est qu'on a une ancienne épure d'une des baies qui a été sculptée, en fait, à la fin du 15e siècle dans la nef, qu'on retrouve, en fait, incisée sur un des enduits de la nef. Donc, on a ici les tailleurs de pierre qui ont dessiné leurs gabarits sur le mur, et encore aujourd'hui, on peut voir ces gabarits sur le mur. Alors c'est très ténu là aussi, mais bon, chacun qui pourra avoir ça en faisant attention vraiment à chaque portion d'enduit.
Pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est finalement un plan de chantier, un plan d'artisan. Il n'y avait pas de CAO à l'époque, donc ils ont dessiné directement leur plan sur le mur.
C'est ça exactement, et on peut imaginer aussi les discussions qui ont eu lieu à ce moment-là pour décider de la bonne moulure, du bon format de la baie, etc. Donc c'est vraiment le travail des hommes, plus que le résultat qui est mis en avant à cet endroit-là.
Et vous avez pu dater cette esquisse, ce croquis?
On ne sait pas la dater précisément. Après, on est très clairement sur un dessin de période Renaissance qu'on retrouve. C'est une baie dont le motif est assez récurrent en fait dans le département de la Sarthe notamment. Donc voilà, on est sur des inspirations avec très certainement aussi des artisans qui venaient de loin. Parce qu'on parle là de motifs qui ne sont pas des motifs courants, des motifs classiques qui n'étaient pas courants jusque quelques décennies auparavant.
Donc à l'époque aussi, on faisait appel à des artisans qui pouvaient venir de très très loin.
Oui, absolument. Et pour justement aussi, quand j'entendais Angelo parler, ça faisait aussi écho. Une grande partie de son travail est vraiment aussi de mettre en œuvre une doctrine de restauration. Là, ces doctrines ont beaucoup évolué au fil des années, ces dernières années notamment, pour la France. Et on a un travail qui est assez fin pour redonner à voir des décors, mais sans toutefois donner une vision fallacieuse, sans créer des faux décors, des faux motifs. Et ça, je dois dire que c'est aussi une vision du patrimoine, de respecter chaque époque, qui nous vient beaucoup d'Italie.
Et du coup, cette esquisse-là que vous avez découverte, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez la préserver? Vous allez la mettre en avant comme un témoignage de l'histoire de la chapelle? Ou derrière, il y a des fresques et vous continuez le travail?
Non, cette esquisse, elle est vraiment présente dans la nef comme elle l'a été jusqu'alors. En fait, simplement, comme elle était couverte de badigeons, elle était peu visible ou pas visible. Maintenant que les badigeons ont été purgés, on voit beaucoup mieux ces incisions-là. Après, ça reste très ténu, il faut les chercher. Je dois dire qu'en fait, dans cette chapelle, il y a énormément de choses à aller chercher. Je vous parlais des fragments de décors médiévaux qui sont vraiment parsemés à quelques endroits. On a aussi des fragments de la litre funéraire qu'on verra beaucoup mieux au niveau du transept et du chœur. Mais dans la nef, on la voit aussi par endroits, une litre très noire. Il y en a une qui est beaucoup plus visible, qui est grise, mais celle qui est noire, on la voit peu. Et il y a tous ces petits fragments là, et à chaque fois rien n'est laissé au hasard, c'est pas des coups de pinceau en l'air. Et
Madame Montulé, finalement c'est une chasse au trésor, ça doit être passionnant pour vous qui êtes attachée à cette chapelle depuis de nombreuses années, qui portait cette association, qui aussi, on en reparlera, avait aussi des talents puisque c'est vous qui vous occupez notamment des vitraux. Donc cette chasse au trésor, c'est un chantier que vous attendiez depuis très longtemps.
Ah oui, ça fait très longtemps, puisque déjà lors des restaurations 2009-2010, la restauration des peintures murales était déjà en question. Donc ça fait très très longtemps qu'on y pense, et il faut beaucoup de temps pour faire les dossiers, pour repasser les différentes commissions. Mais oui, c'était absolument passionnant. On fait des découvertes tout le temps. Et puis c'est vrai que le fait de pouvoir discuter tant avec Monsieur Cani qu'avec Angelo et puis les maçons, on apprend plein de choses. On découvre à chaque visite de chantier, on fait des découvertes. Et bon, moi, personnellement, ça me passionne absolument.
On a les maçons, on a le menuisier, on a l'aspect rénovation des fresques, des badigeons et autres, donc beaucoup de corps de métier. J'imagine qu'on n'a pas pris les entreprises au hasard, c'est des gens qui sont spécialisés dans la restauration du patrimoine.
Oui, absolument, donc on est vraiment sur, on déroule nos gammes en fait, hein. On est sur un chantier de restauration de monuments historiques qui est cadré par le code du patrimoine. Donc tout ça commence par un dossier de demande d'autorisation qui est assez fourni, qui déjà place des bases, et ensuite on consulte les entreprises dans le cadre aussi des marchés public, et notamment les offres des entreprises ont été étudiées à l'aune de l'offre technique avant l'offre financière. On était sur une analyse à 60 et 40%. Et donc on étudie les références des différentes entreprises, leur approche aussi vraiment propre à ce chantier-là, comment eux ils appréhendent ce chantier-là et comment ils souhaitent y participer. Donc oui, c'est d'abord et avant tout un chantier de savoir-faire, et c'est pour ça qu'on est un petit peu, on a vraiment une obligation de résultat en fait.
C'est vous qui pilotez tout ça, c'est quel budget une restauration de cette nature, puisque j'ai compris que ça a commencé au mois d'octobre, je crois, on y reviendra, qu'il y a une inauguration qui est prévue au mois de septembre, donc quasiment un an de travaux, de complexité, c'est quel budget?
Ici, on est sur un budget hors taxe qui avoisine les 110 000 euros, tout lot confondu. On a évidemment aussi chaque lot a une enveloppe qui lui est appropriée. On a aussi un distinguo qui est à faire entre les lots, on va dire, traditionnels et dédiés à la restauration et le lot dédié à la mise en valeur par la lumière, parce que c'est aussi une chose dont on n'a pas parlé, mais c'est un édifice qui va être mis en valeur par la lumière à l'intérieur. Et donc ce travail-là, lié à la lumière, il n'est pas accompagné par les partenaires habituel, puisqu'il n'est pas dédié directement à la conservation du monument, mais plutôt à sa mise en valeur. Et donc voilà, c'est aussi une part importante.
Et donc qui participe au financement de ce projet? Il y a l'État, j'imagine la Fondation du patrimoine, il y a la région, le département, quels sont les partenaires?
Alors les partenaires institutionnels et habituels sont l'État, la région et le département. Et ensuite, on a des partenaires qui sont propres à ce chantier, enfin pas forcément propres, mais en tout cas qui ont été mobilisés de manière assez exceptionnelle. Et là, je vais laisser Mme Montulé parler, parce que notamment, on a un investissement de la part de l'Association des Amis de la Chapelle et aussi de la Fondation du Patrimoine.
Donc effectivement, l'association s'est investie dans la recherche de mécènes. Vous en êtes où? Et j'imagine que vous appelez à des nouvelles contributions. Si nos auditeurs veulent aider cette restauration, ils sont les bienvenus, j'imagine.
Ah, tout à fait, oui. Donc l'association travaille évidemment d'une façon très serrée avec la municipalité de Flers, autant pour tous les dossiers que pour les visites de chantier, etc. Nous nous entendons très très bien. Et donc en effet, pour le financement, il y a la DRAC, il y a la région, il y a le département. Et on a la Fondation du patrimoine. On avait fait une souscription qui se terminait en décembre 2024. C'était une souscription où on espérait avoir 30 000 euros. On en est à presque 18 000 euros, mais maintenant cette souscription est terminée. Mais nous avons eu aussi la chance d'avoir, par la Fondation du patrimoine, on a été lauréat du prix des métiers d'art, puisque la restauration de cette chapelle implique des artisans d'art. Donc nous avons été lauréat pour les Pays de la Loire d'un prix de 20 000 euros.
Donc, ce qui complète quand même considérablement le bouclage du budget. Et est-ce que aujourd'hui vous avez remis en place des souscriptions? Je sais que par exemple il y a des Eloasso pour les associations qui peuvent permettre d'aller chercher des fonds. Vous continuez à chercher jusqu'à l'inauguration?
On va essayer, oui, bien sûr. L'association en elle-même, qui existe depuis 2001, ça fait partie vraiment des statuts même de cette association, de s'occuper de l'animation, mais aussi de participer aux restaurations. Donc, depuis très longtemps, lors de nos concerts, des différentes animations que nous faisons, des visites, ou parfois aussi de conférences, nous mettons de l'argent de côté sur un compte de l'association, de façon à aider aux travaux qu'il y a à faire. Donc l'association participe par tous les moyens possibles à ce chantier.
Donc on peut aussi faire des dons à l'association directement. Vous êtes labellisé là pour défiscaliser par rapport à la sauvegarde du patrimoine?
En effet, oui, on est une association de loi 1901. Donc les dons, les adhésions à l'association et les dons qui nous sont faits font l'objet de
d'avantages fiscaux qui sont propres à l'objet qui est la rénovation du patrimoine. Donc on fait un appel aux dons, on en profite.
Ah mais bien sûr, oui. Alors pour ça c'est assez facile, il suffit d'aller sur le site de l'association, hein, c'est association Sainte-Cécile en un seul mot, -flers.net. Et c'est un site qui est assez ancien, mais il est tellement lourd, chargé, que pour le refaire, il faudrait une équipe de 10 personnes pendant un an, et je suis toute seule à le faire. Donc c'est sur fond bleu, on voit bien Chapelle Sainte-Cécile de Flers, parce qu'il y a des églises des Chapelles Sainte-Cécile ailleurs. Et à ce moment-là, il y a toutes les rubriques où on peut aller pour nous contacter, pour imprimer les bulletins d'adhésion à l'association, pour envoyer des emails. Donc nous sommes tout à fait à même de répondre à toutes les demandes.
Donc association sainte-cécile-flers.net, vous avez toutes les informations si vous voulez participer et aider à cette restauration d'un patrimoine exceptionnel. Vous organisez aussi très régulièrement des événements culturels, et moi personnellement c'est comme ça que j'ai connu la chapelle Sainte-Cécile, en venant notamment aux concerts qui sont organisés durant l'été. Vous avez une programmation, alors là on est en pleine restauration, c'est un peu compliqué, vous avez une programmation pour cette année ou on attendra l'année prochaine pour les événements culturels?
Non, parce que le chantier de restauration se termine au mois de juin. L'inauguration se fera en septembre, mais le chantier doit être terminé mi-juin, voire fin juin, si on a des soucis, parce qu'en ce moment, avec le temps qu'on a, évidemment, les enduits ne sèchent pas bien et ça va peut-être retarder un peu le chantier. Mais de toute façon, nous avons prévu ça et le premier concert aura lieu le 27 juillet, le dimanche, comme d'habitude, à 17h. Le second aura lieu le 10 août, le troisième le 24 août. Et puis, nous allons avoir donc l'inauguration, les journées du patrimoine. Lors des journées du patrimoine, la société Artema doit faire une conférence. Et nous allons voir bientôt comment organiser quelque chose lors de l'inauguration ou après la conférence le samedi des journées du patrimoine. Nous sommes en train de mettre tout ça en place. Tout ça, c'est sur le site de la chapelle. Donc, les informations y sont au fur et à mesure, y compris tous les comptes rendus de chantier de Monsieur Cagny, et puis les photos qui sont faites de l'avancée des travaux, donc consultables sur le site. Et je me suis aperçue que cette page avait été lue 1054 fois. C'est donc que les gens s'intéressent au patrimoine. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de pouvoir constater ça.
Donc effectivement, on s'intéresse tous au patrimoine, et notamment quand il est en restauration et en rénovation, puisque c'est tout l'intérêt de préserver notre histoire. Donc déjà, 3 événements culturels programmés pour cet été, 27 juillet, 10 août et 24 août. Donc ceux qui veulent voir en avant-première les travaux de restauration, en avant-première par rapport à une inauguration qui aura lieu au mois de septembre, venez cet été. Vous avez déjà la programmation, vous savez quels artistes interviennent pour faire un peu de teasing pour les mélomanes?
Ah oui, oui, il y a longtemps que tout ça est décidé, mais comme nous avons notre Assemblée Générale la semaine prochaine, en fait, ça sera sur le site dès le lendemain de l'Assemblée Générale, mais jusqu'à maintenant, on garde le mystère jusqu'à l'Assemblée Générale.
Une inauguration au mois de septembre, Monsieur Canipari, j'imagine que c'est aussi l'aboutissement, vous serez là à l'inauguration?
Oui, oui, je serai là. Et puis on a, alors, vous parliez aussi des spécificités liées à ce monument. Je dois dire que la présence de l'association est vraiment remarquable. On a rarement la chance d'avoir justement une association qui assiste un maître d'ouvrage et qui anime un chantier de restauration. Moi, je dis souvent qu'un chantier, c'est pas une inauguration en soi, c'est aussi tout ce qu'on fait durant ce chantier. Et donc, la chapelle de Flet est en bonne place dans l'agenda.
Finalement, ça sera l'événement en Vallée du Loir, quasiment au même titre que l'inauguration de Notre-Dame, mais ça sera en septembre. Donc avec l'idée de cette exposition photographique pour retracer toute la restauration, c'est quelque chose qui est classique aussi, ou ça vous intéresse particulièrement d'avoir cette traçabilité du chantier?
Là encore, on a une obligation légale en fait de documenter les travaux, notamment quand il s'agit de décors peints, pour justement que les générations futures soient en mesure de savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, etc., les protocoles qui ont été suivis. Donc c'est un travail de documentation qui est systématique, et c'est le travail de l'association qui justement permet de le mettre en lumière. C'est ça qui est assez formidable.
Angelo, vous serez là pour l'inauguration. De toute façon, votre société fait une conférence. Alors, je ne sais pas si c'est au moment de l'inauguration ou un autre jour, mais du coup, cet aboutissement, vous l'attendez avec impatience aussi?
Oui, l'entreprise Artem sera bien sûr présent pour exposer tous les travaux qu'on a fait dans les détails et expliquer au public toute la complexité de notre travail du chantier de la chapelle.
Et vous serez prêt pour le mois de juin?
On va faire au mieux, mais j'espère, oui.
J'ai compris aussi, Sylviane, vous m'avez dit qu'il y a des sur-rendez-vous, parce que voilà, il faut être discret quand il y a ces travaux de restauration, mais il est possible de visiter le chantier. Vous organisez quelques sessions de visite des travaux?
Ah oui, oui, nous en avons déjà fait une, où nous avions une quinzaine de personnes. On ne peut pas qu'il y ait trop de monde, parce que ce serait gênant, mais nous en organisons une bientôt aussi spécifiquement pour les élus. Et puis nous allons faire d'autres visites dans le courant de l'année. Alors ces visites, nous envoyons des invitations par courriel à nos adhérents. Et puis, très important aussi, les visites sont ouvertes aux gens qui ne sont pas adhérents de l'association. Et pour ce faire, il suffit qu'ils se connectent sur le site de la chapelle, ils envoient un courriel au nom de l'association en donnant leur nom, et à ce moment-là, ils sont inscrits, et bien sûr, par ordre de priorité d'inscription, puisque nous bouclons les groupes à une quinzaine de personnes.
Je voulais faire un focus particulier, chère Sylviane, parce que vous avez vous-même des talents artistiques. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites concernant les vitraux? Monsieur Canipari parlait aussi in fine de l'impact de la lumière sur le rendu final de la restauration. Quelle est votre contribution à vous au niveau artisanal?
Alors moi, c'est d'un point de vue... En fait, je suis artiste plasticienne de profession. Donc, les vitraux qui ont été installés en 2018 ont fait l'objet d'une recherche à peu près pendant 4 ans. J'ai travaillé sur le thème de la musique. La chapelle étant de début 12e, fin 11e, début 12e, et nous sommes au 21e siècle. Donc, c'était assez amusant de penser la musique à travers les siècles, au même titre que toute l'histoire de la chapelle. Et donc, j'ai travaillé sur le thème grégorien de jazz, sur le thème de la musique, sur le thème de l'écriture musicale, mais aussi sur le thème, évidemment, ce sont des vitraux, la lumière, c'est ce qui est primordial, puisque tout le temps entre 2010 et 2018, il n'y avait plus de baies donnant la lumière dans la chapelle. La chapelle est toujours consacrée, hein. L'année dernière, nous avons eu 2 mariages et 2 baptêmes, ainsi qu'une messe. Donc, il est important aussi de penser à la spiritualité, à la prière. Il y a beaucoup de passages ici. Les gens viennent pour méditer, pour prier et pour se recueillir parce que c'est un endroit absolument très calme. Et c'est pour ça aussi que, grâce à M. Cagny, nous avons pu rouvrir les deux petites baies romanes de la façade nord ainsi que l'oculus, qui vont faire l'objet aussi d'une création de vitraux dans le même esprit que les vitraux de la nef, puisque nous étions contraints à une monochromie pour les peintures, bien évidemment. Et donc, ces vitraux seront posés aussi pour la fin du mois de juin, bien évidemment. La fin.
Donc là, on est dans la nef côté droite, donc sud. C'est votre œuvre. Vous pouvez nous décrire un petit peu ce vitrail. C'est là pour faire du teasing radiophonique pour que les gens viennent se rendre compte, parce que c'est quand même mieux sur place, de visu.
Alors, donc pour la nef, j'avais une contrainte, c'était la monochromie. Pour le transept, par contre, il n'y a pas de peinture murale, à part la litre noire. Donc là, j'avais feu vert pour les couleurs, donc j'ai travaillé les couleurs de la symbolique chrétienne. C'est pour ça que vous retrouvez des couleurs assez vives, des rouges, des bleus. Le jaune, qui est une couleur très importante, faite avec une matière absolument fabuleuse qui s'appelle le jaune d'argent. Donc ce sont des vitraux faits selon une technique particulière, il n'y a pas les plombs. C'est une technique de fusing, de thermoformage, c'est-à-dire que les vitraux sont à la fois en couleur, mais aussi en relief. Et leur épaisseur moyenne est de 12 mm.
Finalement, on est dans des tons qui, avant l'heure, respectent presque la chromie de Castelbajac au moment de l'inauguration de Notre-Dame. Parce que, vous le disiez, c'est aussi des tons, des couleurs qui ont une dimension liturgique.
Absolument, oui, oui, mais il n'y a pas de vert.
Vous, en tant qu'architecte des bâtiments de France, ces vitraux, ça vous inspire aussi, ça oriente vos choix sur la rénovation, vous anticipez ce qui va être fait dans la nef?
Alors, ça a été dit, hein, il y a une vraie confrontation. Les verrières, c'est pas des décors rapportés. C'est une partie intégrante de l'architecture. Il y a un rapport très étroit entre les décors peints et ces verrières qui sont contemporaines et qui ont été mises en place récemment. Là, ce qui est intéressant, c'est justement ce travail de couleur qui vient pas se confronter avec les décors peints. C'est assez essentiel, en fait, parce que je vous parlais justement du respect des différentes époques, des différents ouvrages. Il s'agit pas d'avoir des verrières qui viennent prendre la place du reste, surtout quand on le restaure ensuite. Et là, c'est vraiment ce qu'on retrouve, en fait. Et surtout, le travail qui a été fait, qui peut rappeler d'autres créations contemporaines, je le trouve très subtil, finalement, à la fois radicalement contemporain. Il montre qu'au XXIe siècle, on sait créer des œuvres d'art et les insérer dans un contexte patrimonial dense et important, et sans pour autant venir faire une tabula rasa, venir prendre la place du reste.
Dans cette restauration, on recherche l'histoire, les origines et le passé. On a des vitraux qui sont effectivement très contemporains. Rien n'est choquant pour vous, au contraire, si vous trouvez ça respectueux, vous appréciez, alors après c'est les goûts et les couleurs, mais vous appréciez cette mise en perspective de l'histoire et de tons et de motifs contemporains.
Justement, on essaie de se départir au maximum des goûts et des couleurs pour trouver des justifications et un sens à tout ça. Et en l'occurrence, là, les verrières auparavant, en fait, soit n'existaient pas, soit étaient des verres simples, donc qui n'avaient pas de valeur patrimoniale, une valeur purement utilitaire. Et c'est pour ça que ces verrières, aujourd'hui, elles ont trouvé toute leur place. Ça, c'est intéressant. Et encore aujourd'hui, alors dans une moindre mesure, et là encore avec une recherche de subtilité, c'est ce qu'on va aller rechercher avec la mise en valeur par la lumière, par l'éclairage nocturne, notamment de la chapelle, pour permettre aussi de mettre en valeur les différents, de scénographier en fait finalement les intérieurs, de pas simplement être dans un éclairage utilitaire qui est juste là pour guider les gens.
Ben, il me reste à vous remercier. Bravo Sylviane aussi pour votre contribution au-delà de l'association, mais artistique avec ces vitraux. Merci à toutes les entreprises qui interviennent. Merci Angelo. Merci à notre architecte des bâtiments de France qui pilote tout ça dans le respect. On a hâte d'attendre le mois de juin, que tout soit terminé, de participer à ces concerts qui sont programmés cet été, et puis surtout se donner rendez-vous au mois de septembre pour une inauguration, de manière à ce que chacun puisse apprécier les lieux. Un grand merci à vous, à très bientôt, et on se retrouve le mois prochain à l'église de Poncet. Merci, au revoir.
Histoire de patrimoine de nos communes.